On est dans une série sur le livre du Lévitique. Et le Lévitique nous parle de la sainteté de Dieu. Et il cherche à imprimer ça sur nos cœurs. Moïse a eu une révélation de la part de Dieu d'un tabernacle qui est dans les cieux, un temple qui est dans les cieux. Et il a essayé de il a reproduit là, dans le désert, un temple, un tabernacle avec ce lieu très saint. Et le livre du Lévitique nous explique comment est-ce qu'on va pouvoir s'approcher, entrer dans la présence de Dieu. Et là, on est arrivé au chapitre 10. Si vous voulez bien chercher dans votre Bible, Lévitique chapitre 10, on va lire quelques versets. Vous vous souvenez, chapitre 1 à 5, 1 à 7 parlait des sacrifices. On s'approche de Dieu par un sacrifice, le sang, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'accès à Dieu. Et puis on s'approche de Dieu aussi par l'intermédiaire, la prêtrise, les sacrificateurs. Il nous faut quelqu'un qui nous représente devant Dieu. Et c'est ce que nous expliquent les chapitres 8 et 9. La prêtrise semblait vraiment prometteuse. Nadab et Abihu, c'était les deux fils de Aaron, ont été vraiment consacrés à Dieu avec leur père. Le Saint Dieu d'Israël les avait personnellement mis à part pour servir d'intermédiaire, de prêtre. Ils avaient un pédigré familial exceptionnel. Ils étaient riches et leur préparation était intensive. On a vu ça la semaine dernière. Ils étaient vêtus de robes, de ceintures, ils avaient des bonnets. Tout rappelait dans leur habillement et dans leur vie la séparation entre un Dieu saint et puis les hommes pécheurs que nous sommes. La tiare d'Aaron portait une plaque là d'or, c'était marqué « Sainteté à l'Éternel ». Tout devait rappeler la sainteté de Dieu. Ils avaient été consacrés au service du Seigneur. Et puis leur cœur avait été émerveillé chapitre 9, verset 23, je lis. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Mais le même jour, le même feu sorti de devant l'Éternel pour les consumer. Regardez, chapitre 10, on lit versets 1 à 5. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et il les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent. Ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Que penser d'un tel récit? Si on a un esprit cynique, on dirait que c'est faire passer le rite avant les êtres humains. Dieu n'aurait-il pas fait preuve d'insensibilité en faisant mourir deux braves garçons dont la seule faute était d'avoir voulu ajouter un peu de piquant à la cérémonie? Alors que le livre du Lévitique a pour but de nous mettre en communion avec Dieu, de nous expliquer comment nous approcher de Dieu, quand on lit ce récit, on a plutôt tendance à faire un pas en arrière. Oula. Et des histoires comme celle-ci, elles nous sont incluses, elles ont été incluses dans la Bible pour notre instruction. Ce n'est pas simplement des vieilles histoires, mais c'est des histoires qui doivent nous parler aujourd'hui pour nous apprendre, nous révéler des choses concernant Dieu. Alors, quelles leçons retirer de cet épisode? Je vous propose de réfléchir ce matin à quelle est notre vision de Dieu. Ensuite, on réfléchira à quelle est notre vision du péché. Et puis enfin, quelle est notre vision de l'adoration? Regardons, quelle est notre vision de Dieu? L'autre jour, j'étais dans une station-service pour faire le plein de carburant. Et puis juste en face de moi, il y avait deux hommes qui étaient en train de remplir des bidons d'essence. Il y en avait un qui avait la pompe et qui remplissait les bidons. Et l'autre, à côté, se roulait une cigarette. Il la roule, il la porte à sa bouche, et à ce moment-là, je le regarde fixement, en lui disant, l'air de dire, « Tu vas pas allumer ton briquet, là, devant tes bidons. » Il ne l'a pas fait. Partout dans la station, il y avait les panneaux « Interdiction de fumer ». L'interdiction de fumer, c'est inclut l'interdiction d'allumer son briquet pendant qu'on remplit des bidons d'essence. Mais s'il n'avait pas respecté l'interdiction, que serait-il passé? Oh, probablement comme pour Nadab et Abihu. Et peut-être moi avec. Aurait-ce été injuste? Non. Non, ça n'aurait pas été injuste. Parce que ça aurait certainement été malheureux et ça aurait été tragique, mais ça n'aurait pas été injuste. Nadab et Abihu ont été jugés, eux aussi, pour une désobéissance. Vous savez, Dieu, il n'est pas sujet à des crises de colère imprévisibles comme certains humains peuvent en avoir. Dieu ne se trompe pas dans son appréciation. Il ne fait jamais d'erreur. Il est impossible que Dieu se montre injuste. Vous savez, avec Dieu, aucun innocent ne sera puni et aucun coupable n'échappera. La justice de Dieu est toujours en accord avec l'ensemble de ses attributs d'amour, de bonté, de justice. Ce que Dieu fait est toujours cohérent avec ce que Dieu est. Eux, ils ont apporté devant l'Éternel un feu étranger. C'est ce qui nous est dit dans le texte. C'est quoi ça? On n'a pas connaissance de la nature exacte de l'infraction. Mais en tout cas, ils violèrent d'une manière ou d'une autre la prescription concernant l'offrande des parfums. D'abord, on peut noter que Dieu ne leur avait rien demandé. Ils y sont allés de leur propre initiative. Aussi, ils ont allumé un feu étranger, un feu profane. En fait, pour aller brûler des parfums à l'intérieur du temple, il fallait prendre du feu de l'autel et le mettre sur l'autel des parfums. Eux ont allumé leur propre truc. C'est-à-dire, ils ont pris un feu profane et ils l'ont amené dans un lieu saint. Ça s'appelle de la profanation. Et puis enfin, il nous est dit à plusieurs reprises, vous avez certainement noté cela, qu'ils apportèrent devant l'Éternel et qu'ils moururent devant l'Éternel. Et il semble donc qu'ils aient voulu entrer au-delà du voile. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure? On est allé jusque sur le parvis, ensuite on est entré, là il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition, il y avait l'autel des parfums, il y avait le voile, mais on n'est pas rentré. On ne pouvait pas entrer. C'était là le symbole de la présence de Dieu. On ne pouvait pas rentrer là. Et eux, il semble qu'ils sont entrés là et qu'ils ont été foudroyés. C'est ce que nous laisse penser le chapitre 16. Je vous invite à le regarder avec moi. Chapitre 16, versets 1 et 2. C'est le chapitre qui est au cœur du Pentateuque, au cœur du Lévitique, et qui nous parle du jour des expiations. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Voilà ce qu'ils ont fait. Au verset 3, il nous est dit que Aaron garda le silence. Je pense que ça, c'est révélateur de ce qui s'est passé également. En plus d'être abasourdi, en plus d'être profondément peiné de ce qui vient d'arriver, il sait que Dieu ne s'est pas trompé. Au fond, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de protestation à émettre, comme ce sera le cas pour les pécheurs au jour du jugement. Au jour du jugement dernier, il n'y aura pas de contestation possible. Le jugement sera parfaitement juste. La Bible dit que toute bouche sera fermée. Aaron et ses deux autres fils, dont on lit les noms, là, Éléazar et Itamar, c'est les deux autres frères de Nadab et Abihu qui vont prendre la suite. Ils ne doivent pas prendre le deuil. Hein, on lit ça dans les versets 6 et 7. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements en signe de deuil, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Prendre le deuil à ce moment-là aurait été, d'abord, ils ont fait appel aux cousins de Moïse et à Aaron pour enlever les corps, parce que toucher, s'ils avaient touché, ils se seraient rendus impurs. Et on a encore vu dans la vidéo que si on était impur, on ne pouvait pas servir Dieu, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu sans être foudroyé. Et donc, ils ne prennent pas le deuil. Parce que s'ils prenaient le deuil, c'est comme s'ils n'acceptaient pas, au fond, le jugement de Dieu. Ou c'est comme s'ils auraient eu une plus grande sympathie pour les pécheurs qu'ils n'en avaient pour la sainteté de Dieu. Et Moïse donne cette explication de ce qui est arrivé au verset 3. Il dit, l'Éternel a déclaré, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié l'Éternel. Ils n'ont pas sanctifié Dieu, c'est-à-dire ils n'ont pas regardé Dieu comme à part. C'est ça que signifie saint, sanctifié. Ils n'ont pas regardé Dieu comme à part, comme quelqu'un de différent de leur nature. Et ils se sont approchés comme si Dieu était comme eux. Dans le psaume 50, Dieu s'adresse aux méchants. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est un peu ma version, alors c'est pas, vous n'allez peut-être pas retrouver exactement les mêmes mots, mais... Il dit, tu énumères mes prescriptions, tu as mon alliance à la bouche. Oui, tu connais mes commandements. Et tu mets mes paroles derrière toi, tu jettes mes paroles derrière toi. C'est-à-dire, tu ne les respectes pas. Tu te plais avec des voleurs et des adultères. Tu mens, tu critiques, tu calomnies ton frère. Et verset 21, il dit, « Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadab et Abihu? Ils se sont imaginés que Dieu leur ressemblait. et qu'ils pouvaient s'approcher de lui. À cause d'une mauvaise vision de Dieu, de qui il est, nous pensons qu'il nous ressemble, qu'il peut tolérer un peu de péché, quelques rapines, quelques infidélités, quelques mensonges ou quelques injustices, et que je peux quand même m'approcher de lui. Nadab et Abihu n'avaient pas une vision claire de la sainteté de Dieu. Au verset 8, je lis, l'Éternel parla à Aaron et dit, c'est la première fois, et la seule fois d'ailleurs, que l'Éternel s'adresse à Aaron tout seul. « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est impur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Dieu commande à Aaron de s'abstenir, lui et les sacrificateurs, de vin et de tout alcool lorsqu'ils font le service dans le tabernacle, de peur que vous ne mouriez. Tout ce qui pourrait altérer, au fond, la clarté de leur jugement, la clarté de leur compréhension de qui est Dieu, doit être rejeté, doit être proscrit. Et compte tenu du contexte, il est fort possible que ce soit l'ivresse qui ait conduit Nadab et Abihu à s'aventurer devant Dieu sans que cela leur soit ordonné. On a besoin de toutes nos facultés, de toute notre compréhension de qui est Dieu lorsqu'on veut s'approcher de l'Éternel. Peut-être qu'ils ont été un peu enthousiasmés par ce qui venait de s'arriver, les repas qu'ils faisaient, ils ont bu et puis ils sont dit « Allez, on va offrir des parfums ». En fait, l'alcool a ce côté qui lève désinhibitoire, c'est ça ? Qui enlève l'inhibition, la crainte. Les pages de la Bible sont marquées par de petits péchés, entre guillemets, qui coûtent très cher aux gens. Manger un fruit défendu, se retourner sur une ville, frapper un rocher, toucher l'arche de l'Alliance, mentir sur ses revenus immobiliers. Tout ça, ça a provoqué un jugement, une colère. Toutes ces personnes sont mortes. Ces récits enseignent les vérités importantes. Elles sont comme des exemplaires. Au début, vous avez remarqué, ça c'est le tout début du ministère lévitique. Et donc, il y a un jugement exemplaire. Au tout début de l'Église, à Pentecôte, il y avait à Jérusalem, il y a eu ce jugement exemplaire avec Ananias et Saphira, qui ont menti. Et au fond, Dieu est en train de dire, voilà ce que mérite le péché, voilà ce que mérite le crime. Voilà ce que nous méritons, au fond, puisque on se sent aussi coupable de mêmes choses. Il n'y a pas de petit péché. Le péché ne nous paraît insignifiant que lorsque la sainteté de Dieu semble banale. Dieu est un feu dévorant. Il habite une lumière inaccessible. Il n'y a pas d'impureté chez lui. Des anges, comme on les a vus, se cachent la face, se cachent les pieds. Et s'écrit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ils ne peuvent pas voir la sainteté de Dieu non filtrée. Pourtant, ce sont des anges exempts de péché. La sainteté de Dieu est insupportable pour eux. Lorsque Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu lui a répondu « Tu ne pourras pas voir ma gloire parce que l'homme ne peut pas voir ma face et vivre ». Et il lui a montré simplement sa bonté de dos. Quand le prophète Ésaïe a eu cette vision, il s'est écrié, et les enfants l'ont chanté, « Malheur à moi, car je suis un homme impur, aux lèvres impures, et mes yeux ont vu l'Éternel des armées. quand Daniel a eu sa propre vision de la gloire de Dieu, il dit « Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdus toute vigueur. » Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Quand l'apôtre Jean a eu cette vision à son tour, la Bible dit en Apocalypse 1, verset 17, qu'il est tombé sur ses pieds, à ses pieds comme mort. Quand nous voyons Dieu comme saint, nous ne voyons aucun péché comme petit. Nous péchons parce que nous avons une mauvaise vision de la sainteté de Dieu. Ça ne signifie pas que tous les péchés sont identiques. Certains péchés sont pires que d'autres et ont de plus grandes conséquences. Mais cette distinction ne devrait jamais réduire aucun péché. Tout péché est grave. Et par contre, une vision élevée de sa sainteté montre clairement que même le plus petit péché en apparence est une grave offense, une grave rébellion envers Dieu. Regardons maintenant quelle est notre vision du péché. La mort de Nadab et Abihu n'est qu'une préfiguration, au fond, du jugement qui atteindra même les moindres des pécheurs. Dieu est si saint et notre péché est si grave. Le péché produit toujours la mort. Lorsque Adam et Ève ont péché pour la première fois, ils sont morts. Ils sont morts parce que Dieu les avait commandé de ne pas faire ça sous peine de mort. Dans le cas d'Adam et Ève, la mort n'est intervenue que plus tard. Même si déjà ils ont bien vu que quelque chose avait été brisé, leur communion avec Dieu était morte. Ils se cachent de lui, ils sont expulsés du jardin. L'un de leurs fils tuera son frère. On voit bien que toute l'harmonie a été brisée, la mort opère déjà. Dans le cas de Nadab et Abihu, ils sont frappés immédiatement. Premier péché, première faute en tant que sacrificateurs, ils sont frappés. Par la suite, les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné vont faire des choses bien pires que cela, bien plus graves, et à plusieurs reprises. Et Dieu les frappera de mort également, en son temps. Ils vont être frappés le même jour, ainsi que la femme de Phiné et puis Élie lui-même. La Bible tout entière dit que le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes sont coupables devant Dieu. Ils sont frappés par la mort. Parfois, nous sommes frappés très tôt, parfois après une longue vie, mais tous meurent, car tous ont péché. Un grand danger, c'est d'interpréter le fait que Dieu ne nous foudroie pas comme s'il ne se souciait pas de notre péché. Vous voyez la chose ? Quand on voit Nadab et Abihu, pouf, ils sont frappés immédiatement. Nous, on n'est pas frappés immédiatement. Alors on a tendance à penser, mais bon, ça a l'air d'aller. Ça ne va pas. Mais Dieu retient son jugement. On devrait déjà être mort. Mais Dieu a retenu son jugement jusqu'à présent pour nous faire échapper à la mort. C'est la manifestation de sa patience. Vous savez, sa patience est immense, mais elle n'est pas sans limite. La patience de Dieu n'est pas sans limite. La grâce qui nous est donnée, c'est que Dieu use de patience envers nous en différant le moment de notre mort. Il nous donne le temps de mettre notre foi en lui en croyant que Christ, le juste, a été frappé à notre place pour que nous puissions vivre éternellement en sa présence. La mort de Nadab et Abihu nous rappelle qu'il y a un jugement. Certaines personnes doutent qu'il y aura un jugement à venir. Pourtant, la Bible est claire. À plusieurs reprises, sans ambiguïté, et le jugement qui a frappé subitement Nadab et Abihu, ou qui frappera par la suite Ananias et Saphira, et bien d'autres encore dans le Nouveau Testament, sont là pour nous rappeler, de nous préparer au jour du jugement, au jour où on va comparaître devant Dieu, et de nous réfugier par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Y a-t-il des péchés avec lesquels vous êtes devenu à l'aise? L'ingratitude, le refus de pardonner, la colère, la médisance. Sa bonté, sa patience ne devraient pas nous amener à nous sentir à l'aise avec le péché, mais elles devraient plutôt nous conduire à la repentance, à l'abandon du péché. Enfin, quelle est notre vision de l'adoration? La Bible dit clairement que Dieu se soucie de la façon dont nous l'approchons, dont nous l'adorons. Dans Lévitique chapitre 8 et 9, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais j'ai colorié ça dans ma Bible. Tout ce qui est en jaune là, fluo, ça c'est toutes les fois où il est écrit que Dieu... qu'ils ont fait comme l'avait prescrit Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il a purifié, il les a lavés comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Ils ont été oints comme l'Éternel avait dit à Moïse. Ils ont fait des sacrifices comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Il nous est dit que Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées à Moïse. Tout était bien. Et puis ils sont venus avec le sacrifice. Et puis là, le feu de l'Éternel est sorti et puis a consumé le sacrifice. Et eux, ils ont connu une joie intense. Et puis, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'était leur adoration. D'où est venue cette adoration ? De l'obéissance qu'il y avait. Et l'obéissance, elle provient de la foi, de la confiance qu'ils ont en Dieu. Et ils obéissent de la sorte. Et ça, ça a provoqué l'adoration. Ça a donné ce temps de communion intense, intime avec Dieu, vrai. Et c'était joyeux. Mais Nadab et Abihu sont devenus des rebelles et ils ont fait ce qui ne leur était pas ordonné. Verset 1. Et ce qu'ils pensaient être un acte d'adoration s'est révélé être une offense terrible envers Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans obéissance. Lorsque Saül a voulu plaire à Dieu, Dieu lui avait donné un ordre clair de dévouer par interdit tout le bétail. Et lui, il a récupéré les meilleures brebis. Et puis quand Samuel est venu le voir en lui disant « Qu'est-ce que t'as fait ?» Ah, il a dit « Oh, je les ai mis à part là. » « Oh non, pas pour moi. Qu'est-ce que tu vas penser ?»« Non, je vais les offrir à Dieu. » Et là, Dieu l'a rejeté. Il lui a dit, est-ce que Dieu prend plaisir? Je prends plaisir non pas au sacrifice, mais à l'obéissance. Et en fait, la désobéissance, c'est de l'idolâtrie. C'est rejeter Dieu et c'est prendre un autre Dieu. Et l'autre Dieu, ben c'est moi. Parce que quand je désobéis à Dieu, c'est quand je suis en train de dire, excuse-moi, mais là tu te trompes. Je sais mieux ce qui est bien pour moi. Je fais ce que je veux. Tu dis ça, je fais ce que je veux. C'est moi Dieu au fond. Et ça, c'est une offense terrible envers Dieu. On ne peut pas rejeter le commandement sans rejeter Dieu qui l'a donné. Et c'est pour ça que nos désobéissances sont tellement graves. En fait, on rejette Dieu. notre culte d'adoration, ce n'est pas seulement nos chants, nos prières, nos offrandes du dimanche matin, mais ce sont nos vies entières. Romains chapitre 12, verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il ne parle pas du dimanche, il ne parle pas de nos rassemblements. Il dit, vos vies tout entières doivent être un culte d'adoration si vous les offrez, si vous vous offrez tout entier à Dieu tel que vous êtes, que vous lui obéissez. Et en fait, notre adoration, elle provient de c'est une réponse à l'immense bonté de Dieu envers nous, révélée dans l'Évangile. C'est l'offrande permanente de nos vies. Parce que Dieu nous a rachetés, alors nous le servons, nous offrons nos vies, c'est-à-dire notre vie sociale, nos relations avec autrui. Ça veut dire votre travail, c'est aussi votre adoration, votre relation de couple, de voisinage, votre service dans la société, c'est votre adoration envers Dieu. Dans les chapitres, dans les versets 12 à 20, je ne vais pas tout vous lire, mais les jeunes sacrificateurs ont repris la place de leurs aînés et ils poursuivent les rites de consécration et le service de l'Éternel, et cette fois-ci comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, verset 13, verset 14, 15. Et ils lui font confiance et lui obéissent. Et survient un nouvel épisode, verset 16. Regardez ça. Moïse chercha le bouquet expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron. C'est les deux derniers, hein, après il n'y en a plus. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte. Et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse. Juste une explication là-dessus. Le sacrifice d'expiation était offert à Dieu et une partie de la viande et devait être mangé par les souverains sacrificateurs. C'était leur devoir et puis c'était leur privilège en tant que représentant du peuple. Et là, Aaron dit, verset 19, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ? Moïse entendit et approuva ces paroles. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a plusieurs interprétations possibles de ces paroles. Tous les commentateurs ne sont pas d'accord avec ça, mais je vous livre la mienne en tout cas. Le sacrifice d'expiation, il devait être mangé par les sacrificateurs, sauf, chapitre 4, versets 11 et 12, on a déjà vu ça, sauf dans le cas où le sacrificateur était lui-même, avait lui-même péché. Dans ce cas, tout devait être brûlé. Je pense que Aaron se sent coupable de la désobéissance de ses fils Nadab et Abihu et de leur mort. Est-ce qu'il les a vus partir avec leur brasier et entrer dans le temple ? Peut-être, je ne sais pas. Mais il porte cette responsabilité. Il se sent coupable. Et s'il est coupable, il ne peut pas manger ce sacrifice. C'est pour lui. C'est pour sa peine à lui que ce bouc doit être offert et brûlé entièrement devant l'Éternel. Est-ce qu'il y avait une certaine euphorie qu'il l'avait gagné lui aussi par le vin ? Peut-être. Verset 20, Moïse approuve. En fait, Moïse, il est presque heureux là, de voir chez son frère cette sainte crainte de l'Éternel et la condamnation de son propre cœur. Et je pense que là, il y a une chose importante que l'on doit comprendre. D'abord, ça, c'est le premier jour, c'est l'inauguration des sacrifices. Et Aaron est en train de dire, je ne fais pas l'affaire. Mes fils ne font pas l'affaire, je ne fais pas l'affaire. Et en fait, c'est comme si la chose est déjà en échec. Aucun souverain sacrificateur ne peut représenter fidèlement le peuple devant l'Éternel. Je pense qu'il a saisi la chose et Moïse l'approuve. Ça montre, la faillite des sacrificateurs. Et je trouve qu'il y a aussi une autre vérité importante, c'est que la vision renouvelée de la sainteté de Dieu, chose que Aaron a à ce moment-là, ne nous pousse pas au jugement des autres, mais nous pousse au discernement pour pouvoir sainement conduire les autres à Dieu, et elle nous pousse à l'examen et à la condamnation de nos propres cœurs. Le grand danger avec la sainteté, c'est de condamner, de passer son temps à condamner tous les autres. Mais la sainteté de Dieu, elle est là pour condamner nos propres cœurs. Et le souverain sacrificateur est en train de dire, « Je ne fais pas l'affaire, Moïse. » Je trouve ça très intéressant. Pour adorer, nous avons besoin d'un autre sacrificateur, un sacrificateur parfaitement obéissant qui intercède pour nous. Nadab et Abihu étaient sans aucun doute les sacrificateurs que vous ne voudriez pas avoir. Ils ont une mauvaise vision de la sainteté de Dieu. Ils ont minimisé le péché. Ils ont élaboré leurs propres règles d'adoration. Leurs fautes, leurs fragilités sont destinées à nous rappeler nos propres fautes innombrables. Nos péchés innombrables, petits et grands, ainsi que notre propension à toujours vouloir remodeler les exigences de Dieu à notre goût. Leur jugement nous montre notre grand besoin d'un prêtre qui respecte parfaitement la loi de Dieu. Un prêtre qui vit toujours pour intercéder pour nous. Nous avons besoin d'un meilleur prêtre que Nadab et Abihu et même qu'Aaron. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Jésus, il est le seul à résister, même aux plus petits péchés, parce qu'il fait entièrement confiance à Dieu. Il n'y a aucun péché en Jésus. Il n'a pas modifié, il n'a jamais arrangé la parole de Dieu à son goût. Non, ou en tout cas son goût est toujours conforme à celui de Dieu. Et le sermon sur la montagne qu'on vient d'étudier nous rappelle justement quelle est la profondeur de cette parole. Jésus est celui qui ne connaissait pas le péché et qui est sorti du camp pour être consumé pour nos péchés, pour les péchés d'autrui. Jésus a refusé le vin mêlé de myrrhe, vous vous souvenez de ça? Il a refusé ce puissant narcotique qui aurait troublé sa vision de Dieu, qui aurait altéré sa lucidité, et puis il est mort et il est ressuscité pour servir de prêtre éternellement pour tous ceux qui lui font confiance. C'est merveilleux. Et cela, pas simplement ici-bas, mais dans le grand tabernacle éternel où Dieu réside. À bien des égards, comme Nadab et Abihu, nous avons ignoré les commandements de Dieu. Mais Jésus est mort pour que nous puissions vivre. En considérant Nadab et Abihu, nous trouvons du réconfort, en sachant que, bien que nous méritions nous aussi d'être consumés par nos péchés, pour nos péchés, Jésus a affronté la flamme de la sainte colère de Dieu afin que nous puissions être pardonner et nous réjouir dans l'attente du jour où nous verrons sa face. Le sacrifice de Jésus-Christ a fait l'œuvre parfaitement pour qu'un jour, on puisse entrer dans la présence de Dieu. Et Apocalypse 22 dit « Et ses serviteurs verront sa face ». Je trouve ça merveilleux. L'œuvre de Christ a assuré véritablement pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu.